manger des passagers. Frédéric Cuvillier a rappelé aujourd'hui que le Code des transports maritimes impose aux capitaines de signaler ce type d'incident ou d'accident sous peine de sanctions pénales. L'un des deux suspects qui était en détention provisoire dans l'affaire de la rixe entre skinheads et antifascistes et qui avait causé la mort de Clément Méric en juin 2013 a été remis en liberté. C'est ce que l'on apprend aujourd'hui de sources judiciaires. Suite aux nouvelles menaces de grève de la faim des migrants à Calais, le préfet du Pas-de-Calais a reçu aujourd'hui les associations de soutien aux migrants et il lance un appel à ces 900 migrants de Calais pour sortir de l'impasse géographique et juridique dans laquelle ils sont. Ils doivent, selon Denis Robin, accepter l'asile ou un hébergement d'urgence en France. L'État va, dit-il, mobiliser des places au niveau national. Il s'agit donc d'une main tendue, dit-il. Si cette nouvelle initiative de l'État n'est pas poursuivie d'effet, alors le préfet du Pas-de-Calais menace de procéder à de nouvelles évacuations. Le virus Ebola, la fièvre hémorragique Ebola, a déjà fait 337 victimes en Afrique depuis le début de l'année, chiffre donné aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé, qui montre aussi qu'il y a eu une recrudescence de fièvre hémorragique ces derniers jours, puisque depuis le 4 juin dernier, on a compté plus d'une centaine de morts supplémentaires. Trois pays sont particulièrement touchés en Afrique, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Vous écoutez France Inter, il est 15h03. Il n'y a pas de pub. Voilà, il n'y a pas de pub, donc c'est l'heure de Daniel Mermet. C'est là-bas, si j'y suis, allez hop, c'est parti.
Bonjour, c'est Paulette de Seine-Saint-Denis. Je suis très en colère envers le gouvernement qui se dit de gauche et ne veut pas céder aux revendications des cheminots qui défendent le service public alors que ce même gouvernement a cédé au bonnet rouge pour l'écotaxe. Envers certains usagers qui disent ne pas comprendre la grève mais qui ne demandent pas à être mieux informés. Envers certains syndicats qui ont signé l'accord mais qui seront bien contents si le mouvement de grève apporte des solutions. Et enfin, envers certains médias qui diabolisent les grévistes alors que ceux-ci luttent contre la mise à la concurrence et pour la sécurité des voyageurs. Voilà, courage les copains.
Comme beaucoup d'entre vous, tous, j'imagine, je viens de recevoir mon relevé de compte avec un petit mot précédant le relevé de compte. Je vous le lis. À la suite des nouvelles dispositions issues de l'accord intergouvernemental entre la France et les États-Unis pour l'application de la loi américaine Foreign Account Tax Compliance Act, désolé pour la prononciation, entre parenthèses FACTA, de nouvelles conditions générales de la convention de compte entrent en vigueur au 1er juillet 2014. Celles-ci sont à votre disposition auprès de votre agence et patati et patata. Alors, pour ceux qui ne parlent pas le banquier, je vous traduis ce petit mot. Salut pauvre con, je sais que tu as signé avec nous un contrat lorsque tu as ouvert ton compte, que ce contrat nous engage, mais nous, on a décidé de faire autrement avec nos petits copains américains et on a fait faire ça par nos larbins, c'est-à-dire nos gouvernements respectifs, c'est plus simple. Comme ça, tu peux pas contester, tu peux rien dire, tu es obligé d'accepter. En plus, si tu veux les conditions générales, tu t'imagines quand même pas qu'on va s'emmerder à te les envoyer à domicile, il va falloir que tu déplaces ton cul jusqu'à nous et peut-être que s'il en reste sur les comptoirs, tu pourras les avoir. Sinon, à part ça, on n'a rien d'autre à te dire. Et si jamais tu es en découvert de plus d'un euro, on te comptera des pénalités d'au moins 10 fois ce montant. Allez, salut pauvre con, nous on retourne faire du pognon, toi on te laisse dans tes emmerdes. Ciao.
Bonjour à tous, et bien vive le mondial. Où en est-on dans ce merveilleux spectacle observé et organisé par tous les terriens? 3-0 pour Poutine, il s'est senti à l'aise sur un terrain qui pourtant ne lui appartient pas. 4-1 pour les islamistes, l'équipe des femmes voilées est tombée sous leur coup fatal. 2-1 pour le capitalisme, et oui, la petite mais non moins célèbre équipe des populaces n'était pas assez entraînée, pas levée assez tôt, pas assez de niaque. L'équipe américaine n'a pas pu combattre celle de l'Irak à cause des grèves de la SNCF française. Le plus incroyable, un spectacle qui nous a rempli d'émotions. Le match tant attendu, l'équipe des intellos contre celle des idiots guerrilleros. Je vous écoute Jean-Mimi, quel est le résultat? Jean-Mimi, pas de son? Bref, un spectacle rempli de surprises dont on ne doute pas de la portée. À vous les studios.
0-0, un peu déçu, le Brésil hier, il y avait un match important, vous le savez. Aïe, aïe, aïe. On est dans un combi VV. À Rio. Nostalgie. le combi, mais ici c'est simplement un moyen de transport.
Donc là on descend du quartier de Santa Teresa pour aller quand même au match quoi. C'est le match, c'est le moment, c'est maintenant que ça se passe. L'avenir du Brésil se joue là dans quelques minutes. Voilà. Le match se passe à Fortaleza aujourd'hui. Mais bon bah nous on est à Rio de Janeiro et on va aller le voir dans un bar à côté de Gloria.
Ah, les petites dames qui veulent monter avec nous.
On se bat en métro.
C'est super.
Voilà. Parfait.
Alors tout le monde a son t-shirt brésilien. Ah,
ouais.
De l'équipe de la Seleção.
Le chapeau,
sélection.
Là, regarde le chapeau brésilien. Là, le masque brésilien.
Là, ça se prépare, là. Hein. Là, tout le monde,
donc,
en fait, la vie s'arrête,
prépare.
Quoi.
Ouais.
La vie économique, même politique s'arrête.
Ouais, là.
Il faut aller soutenir l'équipe, la sélection.
On te dit bon match, comme si tu faisais quelque chose. Absolument pour rien. Bon.
Voilà, on est arrivé.
Ah, petite dame, non, on descend.
Voilà, c'est la Torcida da Benjamin. Et on est donc au pied de Santa Teresa. Et il y a toute une décoration de drapeaux, de... même les trottoirs sont peints en vert et jaune. Et là, il y a les trompettes là. Et il y a l'écran là qui a été tendu. Oh là, c'est un écran de fortune là quand même. Hein. C'est un drap qui a été attaché à deux planches, une petite bâche.
Je suis Fernando Segura.
Fernando.
Je suis sociologue. Alors, je suis né au Mexique. Amérique latine, oui. C'est un sport qui a été emporté par les Britanniques. Mais qui s'est transformé tout de suite du début du XXe siècle dans les sports populaires par excellence. C'est là où les Uruguayens et les Argentins arrivaient à battre les nations les plus importantes du football, les Européens, et le Brésil a créé cette rivalité face aux Uruguayens et face aux Argentins comme un moyen de participer à cette géopolitique du football. C'est à partir de la Coupe du Monde en France, en 1938, où le Brésil a obtenu la troisième place, que l'a pu diminuer, réduire ce complexe d'infériorité qu'avaient les Brésiliens face aux Argentins et face aux Uruguayens. Après, avec cette défaite en 1950, ici au Maracana, face à l'Uruguay, le Brésil a dû se remettre de cette défaite. Oui, en 1958 en Suède, et c'est la seule fois où une équipe sud-américaine a gagné en Europe. C'est la seule fois de l'histoire. Et c'est là où on a assisté à la naissance du roi Pelé, contre la Suède en finale. Donc c'est pour ça que le football fait partie de ce récit de construction d'une image victorieuse du pays, du Brésil.
Quem é aquele moço com a bola no pé?
É o rei Pelé.
Eu perguntei quem é o moço com a bola no pé?
É o rei Pelé.
A bola lhe deu dinheiro, deu nome, lhe deu fama, a bola lhe colocou entre os maiores dos homens. Quem é o moço com a bola no pé?
É o rei Pelé.
Sim, mas quem é aquele moço com a bola no pé?
É o rei Pelé.
Ele tem um drible certo e tem um tiro certeiro. Com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro. É tricampeão do mundo, é o rei dos artilheiros. Quem é o moço com a bola no pé? Quem é aquele moço com uma bola no pé?
É o rei Pelé.
Quem é aquele moço com uma bola no pé?
É o rei Pelé.
que lhe embosca uma bola no pé.
É o rei Pelé.
A bola lhe deu dinheiro, lhe deu fama, lhe deu nome. A bola lhe colocou entre os maiores dos homens. Quem é um moço com uma bola no pé?
É o rei Pelé.
Perguntei quem é um moço com uma bola no pé.
É o rei Pelé.
Ele tem um drible certo e tem um tiro certeiro. Com ele não tem defesa, pra ele não tem. Uma bola no pé.
É o rei Pelé.
Sim, mas quem é aquele moço com uma bola no pé?
É o rei Pelé.
Et pendant les années de dictature, comment cohabitait alors le football avec les années noires brésiliennes?
Comme un moyen fédérateur que les militaires ont tenté d'utiliser pour générer une certaine cohésion de la société brésilienne. Il ne faut pas oublier que le titre le plus fêté des titres brésiliens était en 1970 au Mexique, c'est là où, au milieu de la dictature. Mais au-delà de ça, c'était un moment où le football permettait d'oublier un peu cette atmosphère et cet contexte de la censure, de l'injustice qui était la dictature. Donc finalement, le football a servi à la dictature.
Alors, mais est-ce qu'il était critique, Pelé, par rapport aux généraux, à la dictature?
Non, il ne mêlait pas le foot. C'est ce qu'on rapproche un peu à Pelé. Il ne faisait que jouer au football et puis la politique, ce n'était pas son affaire. C'est une personnalité ambiguë, mais assez consacrée au football. Lui, il ne s'est jamais prononcé par rapport à cette histoire, même après la chute de la dictature.
Parlez-moi d'un joueur dont j'ai seulement un peu entendu parler, c'est Socrate.
Socrate a été une des figures les plus importantes du football brésilien. Il a brillé dans les années 80. Il a participé à deux Coupes du Monde. Ça fait partie des légendes de l'équipe de Corinthians.
Alors lui, il était engagé socialement, Socrates.
Il était engagé, il s'est manifesté.
Expose, c'est pour eux de l'argent de poche. Mais dehors, alors maintenant, il va vivre avec un minimum vieillesse. Et il ne se rend pas compte qu'il va avoir un loyer, de l'électricité, etc. Il n'a jamais payé une facture, même pendant ses 5 ans de liberté. Jamais il a payé une facture, ça ne lui aurait même pas à l'idée.
Parce que vous vous en occupiez?
Oui, parce que moi je travaillais et pas lui.
Ouais. Vous faisiez quoi comme travail? Vous faites quoi?
Je suis en retraite maintenant, j'étais aide-soignante.
Son premier problème, il l'a eu à 14 ans. Quand vous l'avez rencontré, vous saviez déjà qu'il avait fait de la prison et...
Je savais qu'il avait fait de la prison, qu'il y retournerait et que c'était à peu près sa vie, quoi. Hein.
Ah oui, ça oui, vous
oui,
le saviez.
Oui, 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 on en a parlé. Il m'avait dit, faut t'attendre à devoir m'accompagner, à venir au parloir et compagnie. Mais bon, j'étais pas non plus tenue de le faire toute une vie, parce que c'est quand même toute une vie. Mais il y a des sentiments qui sont là, mais même malgré les sentiments, là, je pourrais plus. Et je trouve ça, c'est horrible en fait. C'est horrible d'en arriver là. Par contre, bon, je précise parce que c'est une chose qu'il faut voir. J'ai participé, par hasard, Stéphane Mercurio, qui est une réalisatrice, a fait, entre autres, un documentaire à côté sur les familles de détenus. Il faut le voir.
Bon, bah merci et bonne soirée.
Un temps de pochon, c'est terminé, mais si vous le voulez bien, on se retrouve demain.
Bonjour Stéphanie de Tabac Info Service, je vous écoute.
Bonjour, alors voilà, j'ai très envie d'arrêter de fumer, mais j'ai aussi très peur de grossir.
Vous savez, quand on arrête de fumer, la prise de poids n'est pas systématique. Ce qui compte, c'est de prendre de bonnes habitudes alimentaires avant même d'arrêter.
D'accord, mais concrètement, je fais comment?
Eh bien, si vous voulez, je peux vous mettre en contact avec une de nos tabacologues spécialisées dans la nutrition. Elle vous aidera à mettre en place votre propre programme.
Pour arrêter de fumer, appelez Tabac Info Service au 39 89 15 centimes la minute et bénéficiez ensuite d'un suivi personnalisé gratuit par un tabacologue. 39 89, un service de l'INBES et du ministère de la Santé.
À suivre, Frédéric Lodéon, très bon après-midi à l'écoute de France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité, Laetitia Gaillet.
Les forces irakiennes veulent libérer avant l'aube Talafar au nord-ouest de l'Irak. Elles affirment avoir déjà repris des quartiers aujourd'hui. Les combats contre les insurgés de l'État islamique en Irak et au Levant ont été violents. Cette ville majoritairement chiite est stratégique. Elle se trouve à une centaine de kilomètres de la frontière syrienne. C'est aussi la plus importante de la province de Ninive à ne pas être entièrement tombée aux mains des islamistes. De son côté, la Grande-Bretagne affirme elle aujourd'hui qu'elle ne peut pas rester simple spectateur de ce qui se déroule en